Vous êtes allé dans beaucoup de pays étrangers. Est-ce que vous avez trouvé partout la même chose? Est-ce que le quart-monde est le quart-monde partout?
L'homme de la misère, il est quelqu'un en trop. Hein, il est en trop partout, quel que soit le pays, n'est-ce pas, pratiquement. En Europe ou en Amérique, il est en trop. Il devient insupportable parce que on n'attend rien de lui. On le croit à charge. Comme on ne veut pas se rappeler qu'il a un message à nous livrer, n'est-ce pas, sur nos concepts de démocratie, de justice, de liberté, n'est-ce pas, pratiquement de partage et autres. On n'attend absolument rien de lui. Et ça, c'est partout dans le monde pareil. Et je parle du monde occidental.
Comment est-ce que ça se passe dans le tiers-monde, qui est déjà un monde de la misère?
Et dès le point de départ, déjà en 62, j'étais parti aux Indes. Les pauvres nous appellent. C'est sûr que c'est pas possible que nous restions enfermés dans notre Europe et aux États-Unis. Il y a certainement que les pauvres nous attendent ailleurs. L'opportunité s'est présentée un beau jour, n'est-ce pas, au Guatemala. Il y avait des personnes que j'avais rencontrées à la Nouvelle-Orléans, qui travaillaient là, dans des villages très très pauvres, n'est-ce pas, au Guatemala, et qui voulaient quitter parce qu'elles n'avaient plus assez de recrues, et ils ont demandé de venir les rejoindre. Alors nous sommes allés là, au Guatemala, et puis en Afrique, c'était la même chose, on nous a demandé aussi. Nous lui disions, il faut quand même qu'on réapprenne, peut-être, la misère. Il faut que nous redevenions, au milieu des pauvres, des gens sans pouvoir, des gens sans moyens, même pas celui de la langue. Il faut que nous redevenions tout à fait comme au point de départ. Des gens dont on peut dire, venez voir ce curé, n'est-ce pas, pratiquement, il n'a même pas un sou. Alors donc, nous sommes partis en tiers-monde. Et là, nous avons rencontré la même chose, vous savez. Nous avons rencontré l'exclusion. Nous avons vu des mères qui étaient chassées des villages à cause de la pauvreté du village. Nous avons vu des enfants... Des enfants qui, comme les enfants que les enfants que j'ai été, étaient obligés dès l'âge de 5 ans à gagner sa vie. Nous avons vu des enfants qui étaient complètement privés d'enfance à cause de la misère de leurs parents. Nous avons vu des hommes absolument sans travail, des mères qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, une fierté, une volonté. Et ces familles, n'est-ce pas, pratiquement, de rester quand même debout et fières et malgré tout incomprises. Nous avons retrouvé, au fond, au milieu de la pauvreté générale, nous avons rencontré la misère de chez nous. Aussi âpre, aussi dure, hein, aussi implacable, aussi mal comprise. Les familles, n'est-ce pas, pratiquement affluent vers les métropoles, où rien n'est fait pour les accueillir. Ça, c'est le drame des années 90. Nous aurons, n'est-ce pas, des capitales qui ont aujourd'hui 1 ou 2 millions d'habitants et qui en auront 10, n'est-ce pas, dans 20 ans.
Vous n'êtes pas complètement découragé?
Non, je ne suis pas découragé d'abord parce que j'ai l'Église. L'Église qui est partout. Et puis, je ne veux pas être découragé non plus parce que... Et si j'étais découragé, n'est-ce pas, je me nierais moi-même, puisque, étant donné que j'ai passé par tous ces chemins, n'est-ce pas, que prennent aujourd'hui et qu'on impose aux pauvres de prendre, et que j'ai pu quand même tenir une parole et une parole d'espoir. La misère n'est pas fatale. Les hommes qui construisent la misère, eh bien, peuvent la détruire. Non, je ne peux pas être découragé. Ce serait me nier moi-même. Ce serait absolument, ce serait presque injuste. Je dirais même que je manquerais de jugement. On ne peut pas accepter tout ce qui existe, mais parce qu'on ne peut pas l'accepter, que d'autres ne l'acceptent pas, et que les plus pauvres ne l'acceptent surtout pas, eh bien, nécessairement, ça devra changer, et ça changera. Je suis sûr que ça changera.
Mais ça changera par la violence?
Ah non.
Par l'amour?
Ça ne peut changer que par l'amour et la justice liés ensemble.
Père Joseph, il y a 30 ans maintenant que vous avez créé ATD Quart-Monde. Qu'est-ce que pendant ces 30 ans vous avez appris de plus important?
J'ai réappris, n'est-ce pas, ce que dans mon enfance nous avons vécu, à savoir que l'humanité forme un tout. Nous sommes responsables de détruire la misère. C'est ça que j'ai appris. J'ai appris comme ça que les riches ont besoin des pauvres pour pour leur rappeler en sans cesse la justice, la vérité, au fond nous vivons tous dans un monde, n'est-ce pas, de vérité tronquée, de simili-vérité. Les pauvres nous ont toujours appris que l'essentiel, c'était pas de gagner beaucoup d'argent, c'était pas de réussir. Toute réussite ne vous laisse seul. Et si elle ne sert pas à la réussite des autres, nous sommes une unique humanité, que riche ou pauvre, nous avons tous un combat à mener pour une société plus juste, plus franche, plus fraternelle. Ça je crois que là c'est un rappel permanent. L'amour peut faire beaucoup de sottises. Si l'amour n'est pas endigué par la justice, on peut oublier, n'est-ce pas, que ce que nous rencontrons et qui sont dans la misère sont aussi, je dirais, responsables de sortir de la misère, non pas seuls, mais de sortir de la misère avec les autres, en entraînant aussi les autres. Et alors, l'amour peut nous faire parler de communion, de partage, et de créer un monde marginal, nos pauvres, en faire des bons pauvres. Mais la justice nous oblige à exiger le droit pour les uns et pour les autres, pour tous, que nous soyons respectés, que nos droits, le droit à l'éducation, le droit à la spiritualité, au travail, le droit aussi de manger, n'est-ce pas, doit nous être reconnu, oui. J'étais lâche devant des pauvres à qui j'aurais dû exiger beaucoup plus, car l'amour doit nous permettre d'exiger beaucoup plus et la justice doit nous forcer à exiger beaucoup plus. Mais aussi j'étais lâche souvent parmi les autres. J'ai des fois eu des silences que le Christ n'aurait pas eu. Il pouvait traiter certains de sépulcres blanchis. Moi je pouvais pas le faire, bien entendu. Mais il y a peut-être des choses quand même que j'aurais pu dire et que je n'ai pas dit. Ou que j'ai mal dit, parce que je ne suis pas assez préparé, parce que je me suis passé, je dirais, imprégné d'amour, imprégné aussi peut-être de paix. On ne peut parler que avec un cœur qui soit, je dirais, rempli de paix, de mansuétude. Puis l'amour nous oblige à excuser, à ne jamais condamner. Mais la justice nous demande, nous exige que nous réclamions, que nous exigions, que nous ayons toujours dans le profond respect des autres et dans la compréhension. Moi, je comprends que les riches aient peur des pauvres, je comprends. Que toute l'histoire du monde a été que les puissants ont été détrônés. Et que les riches sont partis les mains vides et les pauvres, n'est-ce pas, gavés. Ça, c'est l'histoire de l'humanité.
Et ce sont les paroles du Magnificat.
Mais oui, mais c'est les paroles du Magnificat, c'est sûr. C'est pour ça que je les reprends. Mais le Magnificat, eh bien, n'est pas un chant de haine. C'est un chant de victoire. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Au fond, toute notre vie, vous savez, est prophétique. La vie des âmes comme la vie des autres, de ceux des sans-pouvoir comme des autres, nous avons tous reçu de Dieu ce don du témoignage que demain ne peut pas être comme aujourd'hui, parce que si demain était comme aujourd'hui, alors ce serait à désespérer de l'amour de Dieu. Et nous ne serions pas vraiment ses enfants, ce serait pas vrai que nous soyons ses enfants, que nous sommes ses enfants.
Ainsi se termine la rencontre de la vie avec le père Joseph Wrzesinski. Cette rencontre a été enregistrée en juin 1987.
le simple citoyen, l'individu isolé, le chrétien de base, de bonne volonté, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut mener une action, lui, en faveur du quart monde?
C'est lui qui, en tout premier, doit mener un combat contre la misère. Qu'est-ce que signifierait d'être chrétien, n'est-ce pas, pratiquement disciple du pauvre parmi les pauvres, du plus pauvre de tous? C'est comme disait, n'est-ce pas, le pape Jean-Paul II, vous avez raison, père, le Christ n'est pas né pauvre, il est né misérable. Et en chaque misérable, aujourd'hui, le Christ vit intensément. Si les chrétiens, n'est-ce pas, les baptisés, ne considèrent pas comme un devoir, le devoir le plus impérieux qui soit de détruire la misère, alors que vaut l'Église? Quelle signification a l'Église? Qu'est-ce que veut dire le mot ou charité? Non pas celle qui consiste à l'aumône, mais cette charité, n'est-ce pas, qui est en réalité partage de Dieu. Parce que c'est ça la charité, c'est le partage de l'amour de Dieu entre les uns et les autres. Et qu'est-ce que ce serait, n'est-ce pas, un partage d'un amour de Dieu qui serait tronqué et qui ne serait que de partage que pour certains? C'est pour ça que j'ai confiance dans l'Église, parce que toute son histoire a été mêlée à l'histoire des plus pauvres. Je dis bien des plus pauvres. Elle n'a pas été mêlée à l'histoire de la bourgeoisie, et ça lui a fait beaucoup d'ennemis, si vous voulez. Elle n'a pas été mêlée à l'histoire des riches, et là aussi, elle a eu beaucoup à en souffrir. Elle a été mêlée à l'histoire des plus pauvres, Et c'est pourquoi elle était tellement persécutée, et qu'elle restera toujours persécutée, parce que mêlée à l'histoire des plus pauvres, c'est défendre avant tout les faibles. Les faibles, non pas pour les tenir dans la faiblesse et les entourer dans leur faiblesse, mais pour justement faire vivre, n'est-ce pas, et éclater la force que les faibles portent en eux, n'est-ce pas. Et c'est ça la mission de l'Église. La mission de l'Église est de permettre aux hommes d'entendre la parole des faibles, qui, plus que d'autres, savent ce que c'est que l'injustice, parce que ils ont vécu l'injustice, et donc par conséquent, lorsqu'ils réclament la justice, ils savent ce qu'ils réclament. Plus que d'autres, ils savent ce que c'est que la liberté, eux qui ont toujours été privés de liberté, qui à cause de l'aumône, n'est-ce pas, des soupes populaires, n'est-ce pas, des banques alimentaires, ont toujours été dépendants des autres, n'est-ce pas, à la merci des autres, à la merci d'un service social, à la merci, n'est-ce pas, d'une bonne dame de charité, n'est-ce pas, pratiquement. Mais comment comprenez-vous que ces gens-là ne sauraient pas ce que c'est que d'être esclave, d'être inférieur, d'être ligoté? Ma mère, avec toute sa vie, n'est-ce pas, a essayé de ne pas être ligotée à cause, n'est-ce pas, qu'elle avait besoin de vivre, n'est-ce pas, des dons des autres, qu'elle avait besoin, n'est-ce pas, pratiquement, de tendre en permanence la main pour ses gosses, et les gosses des autres. Eh bien, comment ma mère n'aurait pas su mieux que n'importe qui ce que c'est que d'être libre? Elle s'est toujours battue pour être libre, pour pouvoir maintenir sa fierté. Qu'est-ce que c'est? Qui peut mieux que les plus pauvres nous dire ce que c'est que l'amour? Eux, n'est-ce pas, qui ont toujours eu des amours cassés. Moi, je me rappelle dans mon enfance, on avait ramassé comme ça dans la rue un petit chardonneret qui était blessé. On l'avait ramassé, on l'avait recueilli chez nous, et puis on l'a mis dans une cage, et puis on lui donnait des graines, et puis on lui donnait de l'eau, on le soignait, on l'aimait bien, et puis il chantait. Il y avait tellement de souffrance, tellement de peine, papa n'écrivait plus, on ne savait plus, on n'avait plus d'argent, on était vraiment dans la grande, grande misère, et on pleurait, ma mère pleurait. Et nous aussi, les pauvres gosses, on comprenait pas, on ne sait pas ce qu'il fallait faire. Moi, j'allais bien voler à droite et à gauche des fleurs pour lui apporter, faire des petites délicatesses comme ça. Je volais des souches à la bouchère pour pouvoir lui acheter quelque chose. Mais maman était là. Et puis, un beau jour, c'était un peu mieux, un petit peu de soleil est venu dans la maison, et puis on a regardé la cage du chardonneret. Il était mort. C'est ça la misère. Ne jamais pouvoir être sûr de garder ce qu'on aime. Alors l'Église, c'est ça qu'elle a à dire au monde. Cette justice que réclament les pauvres, c'est pas la haine. Ce qu'ils demandent, c'est ce que tous les fils de Dieu doivent demander pour eux, pour leurs enfants, mais aussi pour les autres. C'est pour ça que j'ai confiance en l'Église, parce qu'elle a toujours été toujours été du côté de ceux qui étaient les plus pauvres jusqu'à... On parle souvent, n'est-ce pas, de quelqu'un, il se dit, voilà, moi je me fais religieux, je me fais religieuse, je m'en vais en pays du tiers-monde. Partout, nous allons dans le tiers-monde, nous rencontrons, n'est-ce pas, des religieuses, et nous rencontrons, n'est-ce pas, des chrétiens laïcs, n'est-ce pas, qui se sont enfoncés dans le monde de la misère et qui partagent ce monde de la misère. C'est ça, l'Église. Au cœur de la misère. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'elle représente. On a l'air de penser que quelqu'un, n'est-ce pas, choisit d'être ainsi religieuse, n'est-ce pas, pratiquement, ou ATD Carmond, n'est-ce pas, de volontaire du mouvement ATD Carmond, on ne se rend pas du tout compte de ce que ça peut représenter, n'est-ce pas, de rupture. Moi, la première des ruptures que j'ai rencontrées, vous savez, c'est formidable. Et ça m'a toujours marqué. J'avais des amis, moi, avant d'entrer, n'est-ce pas, au camp de Noisy-le-Grand, j'avais des amis, nous étions tous entourés d'amis, puis quand on est rentré dans le monde de la misère, alors, c'est pas que nos amis nous ont quittés, c'est pas ça. C'est pas que nous avons quitté nos amis, c'est pas ça non plus. Mais nous rencontrions des choses tellement graves, tellement importantes, qu'il n'y a plus de langage possible, on ne se comprenait plus. On avait choisi d'autres routes. Imaginez que ceux qui rentrent dans le monde de la misère choisissent d'autres routes. Et des routes, n'est-ce pas, qui vont souvent jusqu'au bout. Jusqu'au bout, n'est-ce pas, de l'incompréhension. Parfois même de la haine. Moi, j'ai connu des familles qui me haïssent, des gens qui me haïssent, parce que je suis là au milieu de la misère. Des gens qui refusent, n'est-ce pas, le petit journal qu'on leur envoie en disant, vous savez, la vie est tellement dure comme ça. Est-ce que vraiment vous avez encore à nous apporter, n'est-ce pas, toutes les misères des autres? Nous ne sommes pas responsables. Bien sûr, nous ne sommes pas responsables, mais nous sommes tous responsables de détruire la misère. Et ça, l'Église l'a compris.